Baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance.
Le baclofène est un agoniste du récepteur GABA, et donc c'est la fonction du circuit de la récompense avec la dopamine. Voilà, c'est un vieux produit puisqu'il date des années 70. Il a été testé au départ comme antiépileptique et puis ça ne marchait pas. Et donc on a trouvé que c'était un antispastique important, et donc c'est l'autorisation mise sur le marché pour la sclérose en plaques. Très vite, on s'est rendu compte dans les années 90 que ça calmait les patients, qu'ils étaient moins angoissés, que c'était un anxiolytique en partie. Et les Russes, Krupitsky, a testé sur l'angoisse et l'alcool, parce qu'ils ont trouvé que finalement les Russes, ils buvaient moins avec le baclofène. Et c'est lui le premier qui a montré dans les années 95 l'action du baclofène et de l'alcool. Après, il y a eu des études qui ont été reprises par les Italiens, à Dolorato, et puis l'équipe de Sardaigne, parce qu'en Sardaigne, ils ont des rats. Ce qu'on appelle les Sardinian rats, qui sont des rats qui sont des lignées qu'on peut rendre complètement alcoolodépendants ou cocaïnodépendants. Et donc, ils ont testé, et les premières études d'Adolorato dans le début des années 2000 ont montré donc une action positive du baclofène pour des patients qui avaient des problèmes d'alcool. Ils ont fait beaucoup d'études à petite dose, puisqu'ils donnaient 30 mg maximum, mais ça marchait quand même. Et il a montré que c'était intéressant chez les patients qui avaient la cirrhose, parce que le baclofène ne passe pas du tout par le foie, n'est pas dégradé par le foie. D'ailleurs, il y a une étude récente qui vient de sortir, une étude de Liverpool, d'une équipe de Liverpool, une équipe italienne, une équipe australienne, une équipe française, Camille Barrault, qui ont montré de très bons résultats avec le baclofène chez les patients qui ont une cirrhose. Après, dans les années 2004, un cardiologue français qui travaillait à New York, professeur Amezen, qui avait des gros problèmes d'alcool, il est parti du principe que chez les rats, à partir de 3-4 mg kilo, ça bloque l'envie de prendre de la cocaïne ou de l'alcool. Donc il s'est dit, voilà, moi je pèse tant, donc 30 mg ça suffit pas, je vais prendre plus. Et il est arrivé à la dose de 270 mg. De baclofène, mais il est monté très très lentement. Et puis il lui est arrivé un truc extraordinaire, c'est qu'il est passé devant son magasin d'alcool, et comme il a dit, j'étais indifférent, il ne se passait plus rien. Alors le professeur Childress aux États-Unis a bien montré ça sur les IRM fonctionnels. On voit bien qu'un patient, elle a fait l'expérience la première sur un patient qui est cocaïnomane, on lui fait passer une ligne de coke de façon infraliminale, et le cerveau, il y a des zones qui s'allument. L'IRM fonctionnel, et sous baclofène, il n'y a rien qui s'allume. C'est assez spectaculaire. Il a écrit un article, bon, c'est un case report, c'est sur son cas à lui. Il est allé voir les alcoologues qui l'ont reçu poliment. Enfin, bref, il s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'il ferait avancer les choses, et donc il a publié un livre grand public. Et donc, du coup, voilà, ça, 2008, on a commencé.
Comment réagissez-vous aux conclusions du CSST de l'ANSM sur les études Bacloville et Alpadir?
Alors quand je vois ce que dit le CSST de l'ANSM sur Alpadir et Bacloville, alors je peux vraiment, vraiment parler de Bacloville parce que j'ai écrit le protocole et que je l'ai mené et que ça va être publié, mais ça je peux en parler mieux qu'Alpadir. Donc dans Bacloville, on nous a demandé de faire une étude en double aveugle, randomisée, multicentrique, le top des études, je l'ai faite, et puis maintenant le résultat, le critère principal, il est positif, il est très positif, et c'est jamais bien. Je veux dire qu'en plus, ce protocole, il a été validé par l'Agence du médicament à l'époque. Je veux dire qu'il fallait avoir l'agrément de l'Agence du médicament. Et puis maintenant qu'ils disent que c'est pas robuste, j'aimerais sur quels critères dire que c'est pas robuste. Qu'ils me disent, en face à face, sur qu'est-ce qui les gêne dans l'étude qu'ils ont demandé, qu'ils ont approuvé et qu'ils ont vérifié. Voilà. Alors après, évidemment, c'est une étude qui n'est pas comparable à rien du tout, Bacloville. Parce que d'abord, il n'y en a aucune comme ça. Un an. Un an, double aveugle. Randomisé en ville. Aucune. Aucune étude où on demande aux patients de ne pas arrêter de boire. Toutes les autres études, vous verrez, c'est l'abstinence au départ. Il faut sevrage. Nous, non. On dit qu'ils peuvent continuer à boire. C'est la seule étude de limitation des risques, limitation des dégâts ou réduction des risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... l'abstinence n'est pas demandée. Les patients, c'était des gros buveurs. On a pris des high risk drinkers, c'est-à-dire des patients qui buvaient vraiment beaucoup. Pas simplement ils avaient en moyenne 120, 140 grammes par jour, ce qui fait deux bouteilles de vin par jour. Donc après, il ne faut pas que les agences du médicament s'étonnent qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrêtent de boire. Ce n'était pas l'objectif, ni du médecin, investigateur, ni du patient. Voilà, c'est important à dire. Son objectif, c'était pour les hommes de boire moins de 40 grammes et pour les femmes moins de 20 grammes. C'est une étude pragmatique en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune exclusion, sauf les SDF, parce qu'on n'a pas le droit. Alpadir, c'est différent. Alpadir, j'ai toujours dit que pour moi, le protocole n'était pas du tout adapté. 180 mg de baclofène pour tous les patients, c'est complètement hors raisonnement. Ce n'est pas comme ça qu'on prescrit le baclofène. Le baclofène, il faut le prescrire très progressivement, d'une part. Et là, c'était prescrit beaucoup trop vite. D'autre part, chaque patient a des doses efficaces qui ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas imaginer de mettre tout le monde à 180. Ils ont, quand on regarde, il y a à peu près 30% de leurs patients qui sont des petits ou des moyens buveurs. Donc, ce n'est pas non plus, je veux dire, ils ne buvaient pas assez. C'était pas l'objectif. Et puis surtout, leur critère de jugement principal, qui était le premier verre. Le premier verre était un échec. Or, la plupart de toutes les études, c'est le premier jour où on boit beaucoup, pas le premier verre. Les heavy drinking days, les jours où on boit vraiment beaucoup. Et donc là, voilà, en plus, c'est des patients qui savaient qu'il y avait déjà des problèmes, qu'on pouvait, avec le baclofène, boire, qu'on n'exigeait pas l'abstinence. Donc c'est une étude qui arrivait trop tard. Les patients étaient au courant. Donc, ils buvaient un verre et hop, échec. Et puis quand même, on peut se poser la question. Toutes les études sur l'alcool, le placebo, c'est 20% de bons résultats. Entre 20 et 30% de bons résultats. 10% dans l'étude Alpadir. Il y a un problème. On peut se dire, pourquoi il n'y a que 10% chez le placebo? Voilà, donc, il y a beaucoup de questions, mais c'est lié au protocole. Voilà, donc, c'est important de dire que toutes les études antérieures... Leur protocole n'est plus adapté à la vraie vie et surtout n'est plus adapté à la prescription, au mode de prescription du baclofène. Seul Baclovil est adapté.
Le baclofène diminue-t-il le craving?
C'est une notion nouvelle qui est très intéressante parce que les études montrent que plus le craving est fort et plus le risque de rechute est fort. Donc c'est lié, il y a un lien entre le craving et la rechute. Et donc c'est sûr que si on arrive à supprimer, et le baclofène arrive à supprimer le craving, ça fait moins de rechutes et les gens ils reprennent pas des consommations astronomiques d'alcool. Ça c'est le premier point. Alors d'un point de vue objectif, c'est aussi objectif que l'évaluation de la douleur. Il y a des échelles d'évaluation analogiques du craving de 0 à 10 et on voit très bien la diminution sur les courbes avec le baclofène.
Quid des effets indésirables ?
Il y a des effets indésirables comme avec tout médicament. Moi, je trouve qu'il y en a moins qu'avec l'alcool. Et je crois que c'est ça qui compte. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'en France, il y a un Français qui meurt toutes les 12 minutes à cause de l'alcool, je pense que si on a un médicament où il y a des effets indésirables, il y a des effets indésirables graves, mais quand même très souvent, je ne dirais pas tout le temps parce que ça n'existe pas tout le temps, mais très souvent, les effets indésirables sont liés à une mauvaise prescription ou à une mauvaise prise. Donc voilà, donc c'est un médicament, il y a des effets indésirables, on les connaît. On les connaît, on sait comment les éviter la plupart, on sait comment les soigner certains. Donc pour moi, ce n'est pas un problème majeur, mais le problème majeur, c'est de former les soignants.
Une étude de la CNAM a conclu à une surmortalité importante avec le baclofène. Qu'en pensez-vous?
L'étude de la CNAM, on est 12 universitaires, 12 professeurs d'université de toute la France, à avoir étudié ce rapport en détail. On a fait un contre-rapport de 8 pages, on a repris les calculs et on a montré qu'il y avait des problèmes, qu'on ne pouvait pas tirer ces conclusions. D'ailleurs, dans le rapport, il y a une phrase intéressante. En supposant qu'il n'y ait pas de biais majeur et en supposant qu'il y ait corrélation, il y aurait tant de morts en plus. Bon, la presse a repris les pourcentages, mais quand on passe de 2 à 4, ça fait 100%. Sur 3 ans, sur 10 ans. Donc il faut aussi voir les chiffres absolus. Donc il y aurait. Le gros problème, c'est qu'en supposant qu'il n'y ait pas de biais, et il y en a d'énormes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous dire que déjà, pour nous, les deux cohortes qui sont comparées ne sont pas comparables. Déjà, c'est le premier point, le premier biais énorme. Ça a été démontré par Catherine Hill, qui est une épidémiologiste de renommée internationale. C'est pas moi qui l'ai montré, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu du point de vue international, du point de vue de la méthodologie. Ce rapport est uniquement c'est ce qu'on appelle les big data. Et c'est un grand danger, les big data. Toutes ces études big data, on en a besoin au niveau épidémiologie. C'est vrai qu'on peut le faire avec les ordinateurs, maintenant on peut tout faire. On arrive à trouver des corrélations débiles. Je ne crois que si on mange de l'artichaut, on va avoir les cheveux qui poussent à droite ou à gauche. On peut trouver plein de trucs comme ça.
L'ANSM a diminué à 80 mg par jour la dose maximale recommandée. Quelle est votre réaction?
Ça a été une erreur de baisser, de fixer à 80. C'est complètement aléatoire, c'est complètement. C'est basé pour moi sur rien du tout. Le Conseil d'État a donné raison au directeur de l'Agence du médicament d'un point de vue administratif. Et c'est vrai qu'il a le droit de faire ça. Mais d'un point de vue médical, il a dit, vous pouvez regarder le rapport du Conseil d'État, on l'a bien souligné, le médecin est dans son droit de prescrire plus. Et le pharmacien est dans son droit de délivrer plus. Du coup, jusqu'à 80 mg, le responsable, c'est l'Agence du médicament, et au-dessus, c'est nous. On est en train d'écrire ce qu'on appelle une expert opinion, une conférence de consensus qu'on fait avec 8 nationalités différentes. À Cagliari, on s'est réunis, et donc on est d'accord. Pour dire qu'on ne veut plus parler de haute et de basse dose, je veux dire que, puisque c'est tailored dose, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pour chaque patient, c'est différent, et c'est pas un menu, c'est la carte. C'est à la carte. On peut demander l'abstinence ou on peut ne pas la demander. On peut commencer le traitement avec le sevrage ou sans sevrage. Donc on a vraiment été très large. Et c'est là que, vraiment à Cagliari, que le professeur Garbutt des États-Unis et le professeur Haber d'Australie nous ont apporté deux nouvelles études positives du baclofène, en double aveugle, randomisé, des études des RCT, comme on dit.
Y a-t-il un profil de patient chez qui le baclofène est plus efficace?
Le profil de patient en particulier, je crois qu'on est en train de trouver, et ça c'est l'étude australienne du professeur Haber, qui a montré un génotype où il y aurait une action plus favorable. Donc on est en train de je pense qu'on avance beaucoup à ce sujet-là. Voilà. Au sujet de pour qui. Il est évident aussi que d'un point de vue clinique, un patient qui vient nous voir en disant moi à partir de, je ne bois pas de la journée, mais à 18h ça se met à fonctionner dans ma tête et il faut que je boive, on va donner du baclofène à 17h, on ne va pas donner du baclofène le matin et le midi. Donc on va donner du baclofène une heure avant. Et donc ce type de patient, ça marche très bien.
Comment voyez-vous l'avenir du baclofène dans la prise en charge de l'alcoolodépendance?
L'avenir du baclofène, on le saura bientôt, en France en tout cas. Mais donc je pense qu'il y a un avenir important de ces molécules-là. Alors l'avenir, c'est probablement les PAM, qui sont des dérivés du baclofène, enfin des récepteurs GABA-B toujours, mais a priori qui auraient moins d'effets secondaires. Donc l'avenir, c'est une représentation meilleure dans la société, une prise en compte de la souffrance de ces patients-là. Et je crois que c'est... Et avec des molécules qui vont nous aider, à les aider.